Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Juliette pour Info Club chez WAM. Alors aujourd'hui je suis avec Christelle, professeure documentaliste du collège Compère Morel de Breteuil, pour vous parler littérature et confinement. Bonjour Christelle.
Bonjour Juliette.
Alors on va tout d'abord s'intéresser à l'enfermement sous son aspect physique, la première chose en fait à laquelle on pense lorsqu'on évoque ce terme, avec une nouvelle culte, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, paru en 1943, un an après son suicide, et son adaptation en bande dessinée par David Sala en 2017. Ensuite, on vous parlera d'un autre type de confinement, moins évident et lié à la nature, la solitude et l'appréhension d'une liberté totale, avec Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, publié en 2011, et Indian Creek de Pete Frome, paru en 1993. Alors Christelle, pourrais-tu nous présenter ces œuvres littéraires et leur lien avec l'enfermement ?
Le premier, Le joueur d'échecs, est particulier puisque c'est un enfermement physique et mental qui est imposé à un personnage. C'est une fiction qui s'appuie certes sur un épisode historique, à savoir le nazisme en Autriche en 1938, mais qui a un lien quand même avec le réel, puisque son auteur, Stefan Zweig, a directement vécu cette situation. Les deux autres, c'est un peu différent. Ce sont deux personnages, ce sont déjà des récits, ce ne sont plus des fictions. Deux personnages, Sylvain Tesson et Pete Frome, qui vont volontairement s'isoler du monde, s'isoler de la société, pour vivre plusieurs mois au cœur de la nature, l'un en montagne et l'autre au bord du lac Baïkal. Ils nous racontent leur vie, leur expérience et leurs pensées.
Alors, on va se pencher sur le premier ouvrage que l'on a choisi. Je rappelle Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, paru en 1943.
C'est un personnage qui est au départ avocat, qui gère les biens de monastères, et quand les nazis veulent s'emparer des biens de l'église, celui-ci refuse de donner toutes les informations qu'il a sur ses clients. Il est arrêté par la Gestapo. Il est dans une prison dorée en quelque sorte, puisqu'il est dans une chambre, il n'est pas maltraité, il est nourri, logé. Le problème, sa punition en quelque sorte, c'est de n'avoir rien à faire, de ne rien savoir, de rien savoir sur ce qui se passe à l'extérieur, de ne pas avoir de quoi lire, de ne pas pouvoir écrire. Il ne sait même pas à quelle heure du jour il se trouve, hein, s'il est le jour, la nuit. C'est ça son problème. Donc, un jour, il subit quand même des interrogatoires de la part de la Gestapo qui essaye de lui soutirer des informations. Et un jour, en attendant un de ces interrogatoires, il trouve un livre dans une poche d'un manteau accroché à une patère. Et là, son cœur s'enflamme. Il vole ce livre et au moment où il retourne dans sa cellule, il découvre avec dépit qu'il s'agit d'un manuel d'échecs qui comprend uniquement des diagrammes, des parties à jouer, et lui n'y connaît rien.
En fait, la force du récit du joueur d'échecs de Stefan Zweig, c'est de montrer que même dans une situation d'enfermement extrême, comme le vit le personnage, avec une perte de repères, l'être humain est capable de s'évader.
Oui, parce que ce livre, finalement, qui lui apporte beaucoup de déceptions, va être aussi un exutoire pour lui, puisqu'il va apprendre à jouer aux échecs tout seul. Il va fabriquer lui-même son propre jeu d'échecs. Et il va développer ses compétences en échecs, dans le jeu d'échecs, pour s'évader.
En fait, ça montre aussi la puissance de l'imagination, la puissance du cerveau humain. D'ailleurs, la nouvelle a été fidèlement adaptée en images en 2017 dans une bande dessinée de David Sala. Alors les dessins permettent vraiment de se représenter, de nous représenter cet enfermement.
Oui, l'auteur joue beaucoup avec la forme du jeu d'échecs. Hein. Il est reproduit notamment en tant que jeu, mais aussi en tant que cellule. On voit le personnage errer au milieu d'un jeu d'échecs. Le thème du damier revient sur les sols, peut-être même jusqu'à la forme carrée de certaines cases.
Alors oui, le format carré saute aux yeux, il participe vraiment à cette sensation d'étouffement. Encore une fois, un étouffement physique autant que mental.
Tout à fait. Et ce qui est vraiment remarquable, ce sont les dessins, les couleurs. Les couleurs font beaucoup penser à l'expressionnisme allemand, avec des teintes rouges, roses, pourpres. Voilà, ce sont les couleurs dominantes. Et puis, j'aime beaucoup aussi tous les petits clins d'œil à Klimt dans le papier peint, dans les robes, dans les tentures, dans les fauteuils. Voilà, c'est très, esthétiquement, c'est très beau.
Alors, j'ai eu exactement la même sensation. J'ai trouvé que les dessins ressemblaient pas mal aussi aux peintures d'Autodix et de la nouvelle objectivité allemande en général, avec toutes ces rondeurs et toutes ces couleurs en fait, que tu étais en train de décrire. Bref, on est vraiment sur une très belle adaptation en images du joueur d'échecs. Je rappelle une nouvelle de Stefan Zweig, parue en 1943, qui porte sur un détenu de la Gestapo, et donc l'enfermement physique et involontaire en fait, de ce personnage. Alors désormais, on va passer à une autre forme d'enfermement, un peu paradoxale car elle est très ouverte.
Oui, ce sont deux personnages qui vont s'enfermer dans des grands espaces naturels.
Alors avec le fameux aventurier et écrivain Sylvain Tesson et son récit autobiographique « Dans les forêts de Sibérie », alors Christelle, de quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, Sylvain Tesson est un aventurier philosophe qui a besoin de vivre des expériences pour réfléchir, pour s'interroger sur le monde, sur l'homme, sur l'humanité. Donc il va faire ses expériences et puis après il nous livre ses récits en guise, je ne dirais pas de leçons, mais voilà, pour nous donner matière à réfléchir.
En fait, il se met à distance de la société, peut-être pour mieux l'analyser, pour l'étudier.
Oui, c'est quelqu'un qui a besoin, je pense, de se mettre entre parenthèses pour observer le monde, pour réfléchir à ce qu'il vit lui-même et à ce que nous vivons tous.
Je rappelle en quelques mots que Sylvain Tesson est parti vivre 6 mois en Sibérie, près du lac Baïkal, dans une cabane avec ses livres, coupé de toute civilisation. Alors Christelle, je crois que tu nous avais préparé un petit extrait.
Oui, c'est un petit extrait qui montre aussi que c'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est truffé d'humour. Hein. Bien sûr, c'est des réflexions très sérieuses, mais il y a aussi toujours cette petite pointe. À la page 31, il dit « Si on me demande pourquoi je suis venu m'enfermer ici, je répondrai que j'avais de la lecture en retard. » Bien sûr, ce n'est pas seulement la principale motivation. Néanmoins, il nous donne une liste de livres qu'il emmène avec lui, qui est quand même assez conséquente. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce livre, il y a le livre qu'on va vous présenter après, à savoir Indian Creek de Pete Frome.
Il cherche aussi à s'isoler parce qu'il aime la nature, pas seulement pour se couper complètement de la civilisation. Tu me disais en aparté qu'il avait aussi un côté presque misanthrope finalement.
Oui, je pense que parfois la nature, enfin l'homme en général l'énerve un petit peu, et c'est vrai que nous pouvons être agaçants dans notre manière de vivre. Je pense qu'il a besoin de se mettre à distance, peut-être pour donner un autre sens à sa vie et pour comprendre qu'on peut vivre autrement que ce que l'on vit actuellement. J'ai noté une deuxième citation dans laquelle justement on perçoit ce misanthropisme. Donc page 211, il nous dit. Les hommes qui ressentent douloureusement la fuite du temps ne supportent pas la sédentarité. En mouvement, ils s'apaisent. Le défilement de l'espace leur donne l'illusion du ralentissement du temps. Leur vie prend l'allure d'une danse de Saint-Guy. Ils s'agitent. L'alternative, c'est l'ermitage.
Alors justement, ce que j'aime bien chez Sylvain Tesson, c'est que de son isolement, il tire aussi une longue réflexion sur la liberté. Alors à la fois, la liberté, on la désire tous très profondément, on la cherche. Et à la fois, face à la liberté totale, la liberté qui n'impose rien du tout, elle paraît complètement vertigineuse. Pete Frome mène exactement la même réflexion dans Indian Creek.
Tout à fait. Pete Frome, comme lui, va s'isoler. La différence, c'est que Sylvain Tesson, quand il mène son expérience à une quarantaine d'années, hein, c'est un choix qui est très réfléchi. Il était passé par le lac Baïkal 7 ans auparavant. Il s'était promis d'y revenir et peut-être d'y séjourner. Alors que Pete Frome, lui, n'a que 19 ans quand il part vivre 7 mois dans les montagnes rocheuses pour s'occuper d'œufs de saumon. Il est étudiant en biologie animale. Et il part vraiment sur un coup de tête. Et il se retrouve là-bas et dans un premier temps, il se demande vraiment, vraiment ce qu'il fait là et pourquoi il a fait ce choix. Malgré tout, à la fin du récit, sans trop dévoiler de choses, au moment où il doit partir, il n'a plus trop envie de partir.
Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait du coup d'Indian Creek de Pete Frome ?
Alors, page 222. Après un hiver passé à rêver de m'échapper quelques jours, je n'avais plus envie de sauter dans mon camion pour m'en aller. Je restais dans la montagne, à regarder le printemps s'installer et transformer mon univers.
Alors, c'est vrai que ça vend du rêve hein, d'aller surveiller des œufs de saumon dans les rocheuses. Non, alors plus sérieusement, cette activité, en fait, ne lui prend que 15 minutes par jour. Et en fait, ce jeune homme, il est surtout pas très organisé. Par exemple, il n'a jamais vécu tout seul, donc il ne sait absolument pas faire à manger. Il n'a que 19 ans et il apprend à vivre au sein de la nature, un milieu sauvage, un milieu hostile.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, vraiment... Il a peur, je me rappelle qu'il y a un passage où il me dit même au tout début, quand si demain on me disait non finalement tu pars pas, je sortirais tout nu dans la rue et je courrais les bras en l'air, voilà. Et finalement après il ne rêve que d'une chose, c'est d'y rester parce que cette expérience lui le fait grandir, c'est un récit initiatique. Il forge sa personnalité, il forge son caractère, il apprend des choses tous les jours. Et finalement, il a un côté très positif, ce livre, parce qu'il nous montre que même dans des situations où on est un petit peu mis en danger, on peut vivre des choses fortes, on peut vivre des choses intéressantes et positives. Alors peut-être qu'on peut faire un petit parallèle avec ce qu'on vit, bien sûr, peut-être que quand on se rapproche du déconfinement et qu'on nous dira, ça y est, dans 2 jours, vous allez pouvoir revivre normalement, bien sûr, on sera très heureux, mais peut-être qu'on pourra aussi porter un regard un peu positif sur ce qu'on a vécu, peut-être qu'on pourra se rendre compte qu'on a vécu des choses fortes, et bien sûr, évidemment, pas pour les gens qui ont été directement touchés par le virus, c'est pas possible, bien sûr, mais pour les autres, se dire que finalement, il faut toujours tirer une leçon de ce que l'on a vécu.
Même d'un confinement obligatoire, il faut finalement tirer du positif, évidemment, quand c'est possible pour les gens qui n'ont pas été touchés par le virus. Et ben merci Christelle, je voudrais dire aussi qu'on peut se procurer les livres hein, malgré le confinement. Alors certes, les librairies indépendantes sont toutes fermées, mais vous pouvez vous rendre sur le site leslibrairies.fr, tout attaché. C'est un site de vente qui répertorie toutes les librairies indépendantes et vous pouvez commander en ligne. Merci Christelle.
Merci Juliette.